la périlleuse, ce qu'on met la périlleuse nécessité, de posséder pour les services de police des fichiers performants. Plus les policiers auront des fichiers performants, plus ils arriveront à élucider par des systèmes de regroupement, de renseignement, les différentes affaires.
Quand vous détectez chez un enfant très jeune à la garderie qu'il a un comportement violent, c'est le servir, c'est lui être utile à lui que de mettre en place une politique de prévention. Quand vous détectez très jeune, à la garderie, c'est le servir.
On s'est dit, on peut rassurer maintenant les Français.
La dénonciation, c'est un devoir.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Duo 89.5. On commence l'émission numéro 0. Aujourd'hui, émission numéro 0 spéciale, fichage et tout ça. Dans l'émission aujourd'hui, il y aura plusieurs interviews. L'interview de Yves qui va nous parler du fichier base élève. L'interview de Philippe qui va faire un petit témoignage sur le fichage et le flicage des RMistes dans une mairie. Pas mal d'autres de petites surprises aussi. Que dire de plus, je sais pas trop. Si ce n'est que oui, le numéro 0, vous pouvez aussi nous retrouver sur le net, c'est un média participatif.
Bonjour, vous êtes en ville, vous marchez paisiblement sur un bout de trottoir et soudain une voix vous interpelle. Un flic a décidé de contrôler votre identité. Il en profite pour vous poser des questions anodines, mais très personnelles. Son collègue prend votre carte, va au véhicule de police, consulte le fichier des personnes recherchées. Bon, a priori, un contrôle complètement banal, ça dure une dizaine de minutes, ça vous surprend même plus. Et vous êtes libéré. Pendant le contrôle, le flic a quand même pris quelques notes sur un bout de post-it. Peut-être rien de plus que votre identité, mais que va devenir cette petite note ? À quoi va servir votre identité inscrite furtivement sur un bout de papier ? Peut-être rien, mais bon, qu'est-ce qui vous garantit le contraire ? Pour justifier ce contrôle d'identité, ce flic doit bien penser que vous menacez l'ordre public, peut-être, je ne sais pas. Va-t-il rentrer dans un ordinateur la totalité des identités contrôlées dans la journée ? Est-ce que c'est ça que les autres appellent bien connu des services de police ? Bon, dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que les fichiers ou bases de données dans la police sont nombreux, plus d'une cinquantaine. Et à titre d'exemple, on peut citer le STIC, le système de traitement des infractions constatées, le SPR, le fichier des personnes recherchées, le FOSS, et oui ça existe, le FOSS, c'est le fichier des objets signalés, et on peut citer aussi ELOI, le fichier d'éloignement, le fichier qui enregistre les données sur les personnes en situation irrégulière, les hébergeants de situation en personne irrégulière et les visiteurs de personnes prisonnières des centres de rétention. Plus d'une cinquantaine, rien que pour la police et la gendarmerie. Et parmi tous ces fichiers, tous ne sont pas officiels, c'est-à-dire pas déclarés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Parmi ces fichiers illégaux, on peut citer Octopus, qui a été créé par la préfecture de Paris pour identifier les taggeurs et les taggeuses. On peut citer aussi un autre fichier que la gendarmerie avait mis en place pour identifier les personnes sans domicile. ni résidence fixe. Voilà, sympa. Aussi, au commissariat du 9e arrondissement de Lyon, les flics avaient méticuleusement organisé un classeur dans lequel ils répertoriaient certains habitants du quartier de la Duchère, photos, habitudes, comportements, etc. Et sur ce classeur, ils avaient marqué Sauvageon. Et ouais, c'était le classeur spécial Sauvageon. Donc bon, les occasions de se faire fichier sont nombreuses. Ça commence à la naissance, comme disait l'autre. Et les flics ne sont pas les seuls à le pratiquer. On peut même dire que, d'une manière générale, de nombreux actes de la vie quotidienne peuvent être motifs de fichage. À partir du moment où l'on a affaire à autorité, banque, caisse d'allocation familiale, mairie, OPAC, mutuelle de santé, employeur, transport en commun, hôpitaux psychiatriques, etc., etc. Les fichiers, à partir du moment qu'ils représentent une monnaie d'échange, qu'ils portent une valeur marchande, une valeur de chantage, une valeur de flicage, alors bah, tous ces fichiers sont une menace. Et quand ils se croisent ou quand ils s'interconnectent, eh bien alors là, c'est pire que 1984. Au début du 19e siècle, Napoléon met en place le livret ouvrier qui vise à surveiller les déplacements des classes populaires. Aujourd'hui, le recensement de la population n'est rien d'autre que du fichage maquillé en opération statistique. Obligation de s'y soumettre de surcroît selon la loi de juin 1951. Tiens, c'est juste après la Seconde Guerre, bizarre. Aujourd'hui, bon, nous ne parlerons pas des fichiers de recensement ni des fichiers que France Télécom a crapuleusement fait sur ses salariés en 2004. Non, aujourd'hui, nous souhaitons parler du fichier bas élève, entre autres, et plus particulièrement ce fichier, puisque c'est un des derniers, un des nouveaux. Ce fichier concerne les élèves du premier degré, c'est-à-dire les écoles maternelles et primaires. C'est ça ?
Élémentaire.
Élémentaire. Il est né en 2008, mais avait été expérimenté auparavant. Et pour en parler tout de suite, donc, nous avons invité Yves, qui va nous parler de ce fichier bas élève. Donc bonjour.
Bonjour.
Eh bien, on peut te demander de te présenter pour commencer.
Donc je suis Yves Canu, je suis directeur d'une école maternelle sur Saint-Étienne et entre autres membre du collectif national de résistance à bas élève.
Ok. Et, alors est-ce que tu peux nous parler plus en détail de la situation présente de bas élève, c'est-à-dire d'abord, qu'est-ce qu'il contient dedans ? Quelles informations il y a actuellement dedans dans Bas Élèves ?
Alors, c'est un fichier qui est donc en effet mis en expérimentation en 2006-2007, qui a eu une petite évolution dans la mesure où il y a quand même eu une grosse contestation par rapport à ce fichage des enfants, hein, parce que je rappelle que le fichage à l'école, ça fait quand même pratiquement toute la population qui sera fichée à terme. C'est 97% des enfants qui passent dans les écoles. Donc c'est un fichage vraiment généralisé de toute la population, ce qui est gravissime déjà dans un premier temps. Et ce fichage a donc beaucoup été contesté dans la mesure où au départ, Bas Élèves était un fichier dans lequel il y avait une cinquantaine de champs. Et au-delà de l'identité, de la date de naissance, du lieu d'habitation, etc., il y avait tout un tas d'informations sur la scolarité, le suivi de la scolarité, des éléments au niveau de la santé, au niveau de l'absentéisme scolaire. Donc aujourd'hui, on a un fichier depuis un dernier arrêté relativement récent de novembre 2008 qui a éliminé un grand nombre de champs, mais on garde un fichier qui est national, qui est centralisé, et entre autres avec un numéro national élève, un numéro d'identité nationale élève, qui sera conservé dans une base de données pendant 35 ans, ce qui est bien au-delà de la scolarité d'un enfant, à moins que l'on considère qu'on reste à l'école jusqu'à 38 ans.
Avant de parler de plus précisément de bas élèves et comment ils fonctionnent éventuellement, moi je me demandais si il existait déjà un numéro d'identifiant pour les élèves de l'éducation nationale avant l'apparition de bas élèves.
Il n'existait pas de numéro d'identifiant. Il y avait simplement les enfants qui étaient donc inscrits à leur inscription, qui avaient un numéro de matricule. Qui s'appelle enfin de ce type, c'est le vocable utilisé, et qui était simplement enregistré au niveau des communes, et ce qui permettait de pouvoir récupérer entre autres les certificats de scolarité des élèves, de longues années après leur scolarisation, ce qui est des fois nécessaire.
Vas-y. Alors BaseElève, c'est une base de données. J'imagine que tout le monde ne peut pas y avoir accès. Comment sont rentrées les informations? Qui sont censés les rentrer et qui sont censés consulter ces informations?
Alors, il y a vraiment toute une hiérarchie au niveau de ce BaseElève par rapport à l'accès aux informations. Le premier qui introduit les informations, c'est le directeur d'école, qui donc, en prenant connaissance des informations qu'il demande aux parents, les saisit dans cette base de données. Et ensuite, il y a toute une hiérarchie au niveau, un accès pour une partie des informations au maire, un accès pour une partie, enfin, en totalité pour l'inspection départementale. Et ensuite, il y a différents niveaux au niveau national. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'anonymat. A priori, il n'y a pas d'anonymat dans ce que nous connaissons de ce BaseElève. Et l'expérience montre qu'il y a des laissés-passer qui sont en dehors des textes, dans la mesure où des informations ont été transformées à des niveaux hiérarchiques supérieurs, alors que c'était a priori à faire par le directeur d'école. Donc il y a vraiment des choses très particulières. Ce qui a nécessité d'ailleurs de remettre en cause la sécurité de ce logiciel. Et tout récemment, il y a vraiment un système de sécurité hyper verrouillé qui montre bien d'ailleurs que ce n'est pas un fichier complètement anodin, parce qu'il y a eu un investissement colossal de l'éducation nationale dans ce qu'on appelle la clé OTP, et donc un système de sécurisation qui montre qu'il y a des données sensibles dans ce fichier.
Très bien. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les champs qu'il y a actuellement, du coup? Pour l'instant, c'est...
Pour le moment, c'est essentiellement identité. Un qui tracasse un petit peu, c'est le lieu de naissance, parce que ce fichier BaseElève, on a aussi une crainte énorme qu'il serve aussi à traquer les sans-papiers. Et lieu de naissance, ou simplement quand on rentre dans BaseElève, qu'à l'âge de 7 ans, qu'à l'âge de 8 ans, c'est qu'on n'y était pas, qu'on n'était sûrement pas en France à 3 ans, ou en tout cas à partir de la scolarité obligatoire de 6 ans. Et donc ça stigmatise de toute façon. Et ça, c'est un danger, hein, puisque tout enfant dans notre pays a le droit à une scolarité, quelle que soit son identité, son origine, etc. etc.
Très bien. Avant, donc, il n'y avait plus que ça. Au départ, c'était pas du tout ça. Alors, effectivement, quel champ il y avait la volonté de mettre dans le fichier BaseElève à l'origine?
De multiples informations, et entre autres des informations qui nous inquiétaient par rapport à la scolarité des élèves. C'est par exemple le suivi par les enseignants spécialisés qu'on appelle les enseignants des RASOD, ce qui dénote des difficultés scolaires des élèves. Ce qui était aussi au niveau de l'absentéisme, où on présentait les choses pour une gestion de l'absentéisme, hein, pour simplement, au lieu de remplir son cahier d'appel, tout simplement, il y avait une gestion informatisée, c'est plus pratique, c'est plus direct, plus efficace, mais c'est aussi centralisé, et on peut connecter ce type d'informations comme ce fichier interconnectable avec le fichier CAF, et d'un coup de clic magique, retirer tant de pourcentage des allocations familiales pour quelques jours d'absentéisme, puisque ça, c'est des choses qui ont été mises à l'ordre du jour, justement, pour inciter ces parents irresponsables à bien mettre leurs enfants à l'école.
On peut peut-être dire que, concernant l'absentéisme à l'école, il y a une loi qui régit ça et qui punit, qui condamne l'absentéisme.
Alors... En effet, l'école est obligatoire. L'école est obligatoire, donc les enfants doivent fréquenter régulièrement l'école. La seule différence, c'est quand on le gère de façon humaine, et comme chaque directrice ou chaque directeur peut le faire, c'est par le dialogue que les choses se passent. Après, quand il y a vraiment des plus grosses difficultés, je crois que le dialogue peut s'élargir aux partenaires sociaux, parce que je crois que c'est un problème social très souvent qui est en cause. Et la répression, je ne sais pas si c'est vraiment la solution. Donc avant tout, c'est le dialogue, la discussion, l'échange avec les partenaires. Ce n'est pas le coup de clic qui va faire qu'on va supprimer 3 sous à une famille qui va l'aider Alors qu'en général, c'est quand même bien face à des difficultés qu'on a ce problème d'absentéisme scolaire. Et enlever un peu d'argent à la famille, je ne suis pas sûr que c'est une aide.
Oui, donc il y a les différents champs, et ils ont été donc du coup tous ces champs ont été abandonnés à quelle occasion, par quel processus?
Alors il y a eu une réaction unanime des organisations syndicales enseignantes, des fédérations de parents d'élèves. J'ai envie de dire moi que ces réactions, elles ont fait un petit peu de bruit dans l'opinion. Mais on a vraiment obtempéré, enfin le ministère a vraiment obtempéré assez rapidement, me semble-t-il, parce qu'il y a vraiment, à mon sens, danger pour eux de faire trop de publicité autour de ce fichier bas élèves. Et très rapidement, avec une mobilisation importante, c'est vrai, mais qui s'est pas étendue dans le temps, on a enlevé rapidement ces champs, ce qui est une fausse victoire, parce qu'on a gardé l'outil qui est un fichier centralisé et qui va permettre tout un tas d'interconnexions. Et ce qu'il faut se rappeler aussi, hein, ce type de fichier, et là il y a des recours divers, notamment au niveau de l'ONU, ce fichier n'est pas en phase avec les textes de notre pays par rapport à la mise en place d'un fichier informatisé. Il n'est pas passé devant le Parlement, il est simplement mis en place par voie de décret. Et de la même manière, donc, avec un décret, on a enlevé X champs. Dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années, on peut en rajouter autant sans encore passer devant le Parlement et donc en discuter réellement et faire que ce soit un choix de la nation. Là, c'est vraiment des décisions autoritaires.
La création de fichiers, les fichiers que le gouvernement peut mettre en place au sein de ses administrations, ces fichiers-là doivent être soumis à l'autorisation de la CNIL. Peut-être on peut faire une petite parenthèse, parce que la CNIL, donc, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce fichier bas élèves a été soumis à la CNIL, j'imagine, ou est-ce qu'il a été... Parce que, en fait, quand on dit qu'il a été expérimenté, c'était avant qu'il soit validé par cette CNIL. Donc il était illégal pendant un moment, ou comment ça se passe?
Alors il n'était pas illégal pendant un moment, il y avait des choses qui n'étaient pas correctes. Il est contesté au niveau des textes par rapport à des raccourcis qu'a fait le gouvernement, où en effet ce fichier aurait dû passer... il est passé devant la CNIL, c'est certain, mais il y a plein de choses sur le plan technique avec plein d'informations qui n'étaient pas données. Et entre autres, on n'était pas tenu d'informer les parents de la saisie dans ce fichier centralisé des données qu'ils fournissaient à l'école. Et donc les parents remplissaient la fiche de renseignement. On ne leur disait pas que tous les renseignements notés sur cette fiche allaient rentrer dans un fichier informatisé. Et donc ça, c'était illégal. Le dernier décret est revenu sur cette donnée. Par contre, il a rajouté que les parents n'ont pas le droit d'opposition. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, les parents d'élèves n'ont pas le droit de dire « Non, je ne veux pas que les informations soient saisies dans ce fichier informatique. »
Comme si ce fichier relevait de la sécurité du territoire français, puisqu'en fait...
Il est d'intérêt public, et donc on n'a pas le choix. On n'a pas à discuter, c'est comme ça, et pas autrement. Et ça, c'est aussi un des éléments, entre autres, pour le moment, il y a dans différents départements ou dans différentes communes, il y a des parents qui portent plainte. Bien sûr, ça, c'est un élément qu'ils contestent parce qu'ils veulent avoir la maîtrise de leur liberté par rapport à ces informations.
Alors, pour faire un point vite fait, actuellement, à l'heure actuelle, Bas élèves est en place à peu près partout sur le territoire français et... les directeurs, pour une grande part, directeurs, directrices d'école, rentrent les informations dans Bas élèves actuellement, et sans forcément en informer les parents, qui très souvent ne le savent même pas.
Les parents ne le savent pas dans leur grande majorité. Les directeurs d'école, les directrices d'école utilisent Bas élèves dans leur grande majorité. Ce qui n'est pas certain, c'est que les fichiers soient mis à jour, parce que je crois que malgré tout, il y a une certaine réticence. Et par contre, les collègues qui résistent réellement, on n'est malheureusement pas très nombreux. Sur le département de la Loire, on doit être une petite dizaine. Et le collectif national rassemble, aux dernières nouvelles, je crois que c'était 189 directeurs d'école sur toute la France. C'est vrai que c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais ça éveille malgré tout la population, parce qu'il y a eu beaucoup de répercussions au niveau de la presse et beaucoup d'actions menées par les uns et par les autres qui mettent en alerte, qui chaque fois, entre autres, quand on parle de ce fichier à des parents d'élèves qui tombent des nues parce que, bien sûr, ils n'ont jamais été informés, se tracassent, s'inquiètent parce qu'ils voient tous les dangers de ce système de fichage.
Alors, est-ce que, si on en est dans la question de la lutte, se sont créés au niveau local des collectifs de résistance à base élèves qui se sont coordonnés au niveau national, enfin, en tout cas, au moins qui se sont rassemblés sur un même site internet. Et est-ce que tu peux donner un état de comment ça se passe dans la Loire ? Donc, a priori, tu disais que vous étiez une dizaine de directeurs dans le collectif.
Alors, dans la Loire, on a été quand même au départ interpellé par le collectif national. C'est le collectif national qui a fait qu'on s'est connu la petite poignée de directeurs dans la Loire résistant à ce base élève. Donc, première initiative du collectif national importante. Et ce collectif qui s'est créé dans le département de la Loire a très vite fait la liaison avec les désobéisseurs. Je rappelle, les désobéisseurs, ce sont des collègues enseignants qui refusent d'appliquer les nouveaux programmes et diverses réformes imposées par notre brave ministre, M. Darcos. Et donc, on a fait le lien avec eux parce que notre combat est similaire. Et pour le moment, il y a des choses qui s'organisent avec des collectifs de parents d'élèves pour mener des actions, dans la mesure où, tout récemment, il y a sur le département de la Loire des débuts de sanctions. Il y a 3 collègues qui sont menacés de faute professionnelle pour ne pas avoir récupéré la clé OTP, cet outil magique qui est censé sécuriser la base élève que nous saisissons.
Oui, alors la clé OTP, ça a été un objet de lutte aussi par ailleurs dans d'autres départements. Oui. Il y a aussi la question des formations. Par exemple, est-ce que toi, tu as dû recevoir une formation à base élève et en quoi ça consistait exactement ?
Tout au long de l'expérimentation et puis cette année scolaire qui est en route, il y a une volonté du ministère de faire que chaque directeur d'école rentre dans ce base élève. Et pour cela, il y a eu vraiment un arsenal complet d'incitations. Et j'ai envie de dire, maintenant, c'est plus de l'incitation, c'est de l'intimidation à rentrer dans ce logiciel. Et moi, j'ai été en fin de course parce que je refusais de participer à ces formations, ou je refusais de m'inscrire à ces formations. Et j'ai en fin de course été convoqué à cette formation où j'étais censé venir avec la fiche des élèves de l'école pour pouvoir saisir. Alors, pour ma part, moi, je suis allé à cette formation comme j'y étais convoqué et donc contraint, mais sans fiche élève. Et donc, j'ai simplement fait acte de présence et je n'ai pas saisi alors que l'ensemble des directeurs étaient devant les écrans en train de rentrer les données. Et entre autres, moi, j'ai interpellé mes collègues par rapport au travail qui était en train de se faire en leur posant la question de savoir s'ils avaient informé les parents d'élèves de ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, ils ne savaient pas qu'il était nécessaire d'informer les parents d'élèves. Donc, j'ai interpellé le responsable de cette formation en lui disant est-ce que nous devons informer les parents d'élèves ? Et là, il a été très évasif, mais c'est pour la bonne raison qu'il faut informer les parents d'élèves et que donc on aurait dû de suite arrêter la saisie parce qu'on était hors la loi.
Est-ce qu'on peut essayer d'aborder vite fait en 3 minutes toutes les actions qui ont eu lieu au niveau des collectifs de résistance en France, etc. Parce que on n'entend pas beaucoup parler, a priori en préparant l'émission. Avant, je disais « Ah, il ne se passe rien », et puis en fait, il se passe pas mal de choses. Ouais. Après, c'est très dispersé. Et c'est très au niveau local, c'est-à-dire ça peut être aussi bien dans les grandes villes comme Toulouse que dans les petits villages de l'Aveyron, etc., où il peut y avoir des très fortes mobilisations. Il y a une vingtaine de collectifs à peu près de résistance à base élève, répartis dans une vingtaine de départements officiellement. Ils ont une forme, disons, classique de mobilisation avec des réunions d'information et des manifestations. Par exemple, il y en a une à Toulouse, en Haute-Garonne, qui a pu rassembler en juin une centaine de personnes, etc. Ou même dans l'Hérault, à Capestan, un rassemblement devant une école à l'occasion des fameuses remises des clés au TP. Voilà, en Isère, il y a des formes d'action comme déménager les ordinateurs des écoles pour les ramener à la mairie en signe de protestation. Donc ça a été fait et dans l'Isère et dans l'Aveyron. Voilà, et il y a des formes plus en complément avec ces formes classiques, il y a des formes plus offensives, plus d'action directe, donc les blocages. Alors que les blocages des fameuses formations à base élève pour les directeurs et les blocages de remise de clés au TP. Formation base élève, c'est pareil, il y en a eu des blocages de formation. Souvent, ça venait des parents d'élèves c'était leur forme d'action d'entrer dans la lutte, accompagner avec des profs et pas tellement finalement des directeurs, sauf pas officiellement en tout cas. Donc voilà, on peut dire que par exemple, où est-ce que je l'ai mis ? Que dans le Tarn, dans le Morbihan, à Cahors, etc. Il y en a eu beaucoup à Grenoble, où les parents d'élèves sont beaucoup investis. Ils n'étaient pas nombreux à chaque fois, mais ils étaient 15, 20, 30, et ils empêchaient ils bloquaient l'entrée. Souvent, ça se passait à l'inspection d'académie. Et les policiers intervenaient à chaque fois, donc cassaient le blocus, plus ou moins. Des fois, les directeurs étaient quand même assez scandalisés de la manière dont ça se passait, donc ils refusaient de rentrer dans ces conditions. Donc, voilà. Et le refus par rapport aux clés OTP, les fameuses clés qui permettent d'avoir cet identifiant qui sont censés sécuriser base élève dans son accès. Elles étaient remises des fois collectivement. Donc parfois, c'est les directeurs eux-mêmes, directeurs, directrices eux-mêmes qui refusaient la clé. Par exemple, ça s'est passé dans les Alpes de Provence à Lauzet-sur-Ubaye, célèbre village des Alpes de Haute-Provence. Dans le Morbihan, là, c'est les parents qui sont venus bloquer à Josselin l'accès, etc., etc. Et puis, plus récemment, il y a eu une forme de lutte sous forme judiciaire avec un dépôt de plainte collectif au tribunal, par exemple, à Millau, dans l'Aveyron, où 244 plaintes de parents de contre bas élèves ont été déposées, plaintes contre X. Et pareil à Grenoble, où 11 plaintes de parents collectives ont été déposées le 25 mars dernier. Voilà, on arrive à peu près au bout pour l'instant de l'interview.
Du coup, premier bout de l'interview, un gros big up à vous. Là, on va passer un petit morceau d'actualité qui s'appelle Fuck Bouteflika, qui est un morceau de Karim avec Calamity et Reality. Morceau d'actualité sur les élections en Algérie, si on peut parler d'élections ou si on peut parler de démocratie, je sais pas trop. Mais en tout cas, le Fuck Bouteflika, je pense, c'est d'actualité.
نيك لا بوليس خويا الخوفه من ربي مادامهم عايشين للحقره ام يربحوا غير زبي اي سي بالسامبل سي
ايوه نيك لا بوليس نيك لانجستيس نيك تول موند نيك لا مونتاليتي الخاسره اللي خلاتنا في الديار مونداليه قويه تبغى الحق نقول لك راني كرهت من لا
لامي لي لي طعلامي لي تيراني هنا لي تبلاصة في بوست مليح مادا بيه يبخوه مادا بيه يطيح عربي يحقر العربي عار كبير بوليسي يحقر الشعبي علاه تحير خطرك مكمبلكسي لا مونتاليتي أصوى في عنده موك ريسبونسابيليتي شوفوا كيف نهبين صحرا بالمقلة هو جيعان في كرشو مشتاق ماكلة اللوم حتى واحد خويا دنيا قحبة مادام الانجينيار في بلادنا خادم نصبة عم تيزاو هالو عم دارو تير قريب يقولوا للي جن
روحوا سرقوا خير
نيكلي ريسبونسابل نيكلا وحق الشعب نيكلي دارو دراهم اللي ظهرنا بلا تعب نيكلا بوليس لي تحقر في الشعب بوم بليس نيكلي طار نيكلي بالي جيستيس
نيك ليك ليك عليك عليك خالد
نيك 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 لا بوليس نيك لي طا نيك لا جيستيس
نيك نيك الدولة نيك حكومة لي حكرونا
نيك 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 لي جندر نيك لي موتر كل دي بطر
نيك لا بوليس نيك لي طا نيك الدولة كاملة راسة واحدة كاملة عايشين في القوادة ولا تسوى ولا يسيزيولهم في الدخان ولي دخل السطلة ما يقيسوش خاطش قلاوي خشانة اللي حقرو اللي ما عندوش واللي عنده يقودولو نيك قصر الرئاسة ما مشي كلكم قولولو جايبين عمور الشعب اللي حقرو في الزوالي نيك ديفيزيونار نيك كوميسار نيك الوالي نيك جينيرال نيك الوزير نيك ديبيتي كاع ديبيت نيك بيان بيجي كاع ديبيدي يا حقارين نيك العطايا داك اللي رفدني طحان وفرحان ميت بالفرحه كيزلزلني ديديكاس من عندي للناس اللي تبيع في الغبره اللي يصطل في ديكي ولا اللي يسوق بكاروشيرا للناس اللي مفيشي اللي عندهم نيميرو ديكرو نيك لابوليس فيف الفيز فيف الطيرو
نيك 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 بوتفليقه نيك عتيقه نيك خالده
نيك 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 لابوليس نيك ليطا نيك لا جيستيس
نيك 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 الدولة نيك حكومه نيك
نيك نيك نيك لي جندرم نيك لي موتر كل دي بطل
هذا راب جابر مع الهموم والميزيرية صح صح ماشي سيا هادي جيا هادي بليا كره كره خويا شوف الحياة شوف البلاد اه بويا هيب نار اليوم زاد هذا بير كبير السلطان حتى المير خلي الشعب يضيع خلي الجون يطيح خلي الدم يسيح خلي الفور يجيح هذا ناف ماشي قواده ديما عالي ديما الفوق دوبل شور هو وقلبي زمان يجري زمان يدور تمنيت ها توجور قبل ما نزور دوك القبور صبري فات فات حزين حبيت نتهنى يا لطيف قلبي دبال بورتو حنان خلي البيه خلي السيف جيب ستيل وجيب الورقه ما بيت ساب ولاد البحق حق اخو راني سيت فاك ماضر بوت فليقه نيك مو واش عطالي ما على بالي بحتى واحد واحد يراس روحو راني حر يا خالده كباري في بلادي سوا ولا تقوى نيف يبقى عالي لا كتاف ولا قلوة زوالي وراني عايش في وجه الدرو الحجرة تعيش يا جزائر حرة مستقلة حرة مستقلة حرة
مستقلة نيك 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 بوتفليقة نيك عتيقة نيك خالدة
نيك 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 لا بوليس نيك ليطا نيك لا جيستيس
نيك 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 الدولة نيك حكومة نيك حكرونا
نيك 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 لي جندرم نيك لي موتر كل دي بطل
نيك نيك بوتفليقة نيك عتيقة نيك خالدة
نيك 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 لا بوليس نيك ليطا نيك لا جيستيس
نيك نيك الدولة نيك حكومة نيك حكرونا
نيك 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 لي جندرم نيك لي موتر كل دي بطل
Yo, vous l'avez deviné, vous êtes bien sur le numéro 0, il est midi, et voilà, émission spéciale fichage, et là on va passer, pour rester dans le thème, un extrait de d'une émission marseillaise qui s'appelle Basse Intensité, que vous pouvez aller visiter sur internet, sur basseintensité.internetdown.org. Et voilà, petit extrait, moi que je trouve intéressant et vachement dans la thématique, ça s'appelle Citoyen Balance, voili.
Citoyen par-ci, citoyenne par-là. On nous les sert à toutes les sauces, car ce sont les poucaves, les balances, les indiques, les collabos, les mouchards, les donneuses, les corbeaux et les délateurs. Ils sont ceux qui entretiennent ce monde. Les yeux et les oreilles des juges, de l'africaille, des politiciens et des patrons. Les merdes.
La poucave a la langue bien pendue. Elle dénonce les sans-papiers. Elle bave sa haine raciste, à peine dissimulée derrière le prétexte des lois ou de la situation économique.
Le mouchard va et vient derrière ses collègues, les épie, les évalue, puis les dénonce au patron. Ceux qui glandent, volent, sabotent, en bref résistent à leur exploiteur, sont poursuivis, virés, emprisonnés.
La balance fait confiance à la justice. Elle s'en remet à elle pour faire valoir ses droits. Droit de dénoncer tous ceux qui ne lui plaisent pas. Trop jeunes, trop foncés, trop vieux, bruyants, nombreux.
La donneuse dénonce ce qu'elle jalouse. Elle ne supporte pas ceux qui survivent par du boulot au noir, des trafics, de petites combines ou de la débrouille. Elle préfère le voir crever comme elle crève elle-même, soumise.
L'indique a sa conscience pour lui. Il dénonce pour de l'argent. Qu'il soit assistante sociale, employé de la NPE, animateur social, sociologue, vigile, éducateur ou voisin, l'indique vit de la misère.
Le corbeau n'assume pas, il dénonce anonymement voisins, amis, collègues, inconnus. Il n'assume pas car seul compte sa vengeance, celle que sa lâcheté empêche de réaliser lui-même.
Le délateur préserve ses intérêts, qu'il soit commerçant, propriétaire, prof, politicien, contrôleur ou militant. Il n'admet pas que ceux qui le font vivre puissent ne pas accepter ses règles. Il dénonce voleurs, squatteurs, rebelles et autres indésirables.
Le collabo, comme lors de la Seconde Guerre mondiale, se retranche derrière l'administration. Si la loi le lui permet, il se laisse aller à dénoncer immigrés, déserteurs, révoltés, homosexuels, chômeurs. Pour lui, ce ne sont que des cafards.
Le citoyen est un peu tout à la fois. Lui dénonce publiquement, avec comme prétexte la politique. Il vote, parce qu'il est l'esclave zélé qui légitime ses maîtres. Il s'imagine avoir pour mission de faire respecter les lois, voire de les modifier. Il est un flic sans uniforme.
Tous ceux qui refusent de subir la vie qui leur est imposée savent qui sont leurs ennemis, savent où ils sont et comment les traiter. Ils se cachent derrière le sourire grimaçant d'une voisine, l'odeur nauséabonde d'un CUQ, le masque de sympathie d'un commerçant, le velours d'un cabinet d'huissier, les murs suintants d'un commissariat. Qu'ils soient de droite ou de gauche, le citoyen est notre ennemi. Qu'elle soit de droite ou de gauche, la politique est notre ennemi. Tous veulent nous empêcher de vivre, nous ne nous laisserons pas faire.
nouveau sur les ondes de Radio Dio, l'émission du numéro zéro. Dans un tout petit instant, nous aurons Philippe Mélineau au téléphone. Philippe Mélineau a travaillé comme assistant socio-éducatif à la mairie de Colmar entre 2005 et 2006. Et il était au CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale, et avait entre autres en charge l'instruction des contrats d'insertion des RMistes. Et c'est en septembre 2006 que Philippe reçoit une mise à pied d'un mois sans solde, pour motif d'avoir manqué au devoir d'obéissance envers son supérieur hiérarchique. Voici par exemple ce que dit l'arrêté du député-maire de Colmar. Attendu que M. Philippe Mélinan manque au devoir d'obéissance hiérarchique, dénigre la hiérarchie et certains collègues, attendu que son comportement porte atteinte à l'image du service Action sociale et que des carences ont été constatées dans le suivi de ces dossiers. Voilà, alors pourquoi ce référent RMI, pourtant très bien noté au début de son contrat, est-il devenu totalement incompétent, mal organisé, bref, le mouton noir ? Eh bien, Philippe Mélinan devait, dans le cadre du suivi des dossiers RMI, remplir des petites fiches. A priori, rien de particulier, même si le relevé étant neutre, eh bien, il s'agit forcément de fichage. D'ailleurs, auditeurs, auditrices et bénéficiaires du RMI, votre référent vous a-t-il un jour montré ses notes ? Votre référente RMI vous a-t-elle un jour proposé de venir récupérer ses notes lorsque vous serez viré du dispositif RMI ? Bon, bref, à la mairie de Colmar, en tout cas, les consignes pour remplir les fiches allaient bien au-delà de la simple neutralité. Événements professionnels, familiaux, médicaux, le tout émaillé de commentaires sur l'apparence, les comportements, l'état d'esprit, des éléments de propos échangés avec les bénéficiaires du RMI. Bref, ces fiches sont ensuite rangées dans des classeurs, informatisées et imprimées. En clair, les informations personnelles de chaque bénéficiaire RMI deviennent consultables par toute autre personne que la personne référente RMI. Et surtout, les bénéficiaires du RMI ne sont ni au courant que les informations personnelles et privées sont relevées, ni au courant que celles-ci sont consultables par des secrétaires et même plus, car elles restent en fait dans le système informatique du service social. Par exemple, voici quelques commentaires portés par des travailleurs sociaux sur les fiches individuelles de RMistes de la ville de Colmar. Lente, très fuyante, se déplace à pied, frein à sa recherche d'emploi, sa présentation et son comportement, problème de présentation, odeur, difficile d'en parler à monsieur, agressif. Et le dernier, le plus sombre, il est illettré, s'est présenté avec une demoiselle en situation irrégulière. Suite à la saisie du compte bancaire, monsieur a envisagé de démissionner pour ne pas travailler pour rien. Je l'ai informé du risque de suspension RMI s'il faisait un tel choix. Voilà quelques exemples de commentaires de ces fiches RMI à la mairie de Colmar. Donc Philippe Mélineau, quand il arrive au service social, découvre l'existence de ces fiches, que celles-ci se pratiquent depuis longtemps, que le fonctionnement paraît aux yeux de ses collègues normal. Et voilà plus de 2 ans qu'il n'y travaille plus. Depuis, il a entrepris de nombreuses démarches, la première étant de mettre à jour déjà ces pratiques de nazis et de fachos, alerter le procureur de la République, la mairie de Colmar, l'Association nationale des assistants de services sociaux et la CNIL. J'en oublie peut-être, mais on va peut-être avoir l'occasion d'en parler tout de suite. Alors bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Bonjour, donc vous avez donc travaillé au CCAS de la mairie de Colmar.
Voilà, j'ai pris en cours le début donc de votre introduction, en cours de route. Bon, effectivement, j'ai travaillé au CCAS de la mairie de Colmar de fin 2005 à septembre 2006, donc c'était en CDD. J'étais donc un contractuel pour une collectivité territoriale dans le cadre du suivi, entre autres, des bénéficiaires du RMI au niveau de leur contrat d'insertion.
D'accord. Voilà. Alors pour commencer, peut-être savez-vous si cette pratique existe encore et où en sont peut-être vos démarches qui vous ont amené à alerter des autorités, la CNIL, le procureur, etc.
Voilà. Alors il se trouve qu'il y a à peu près, enfin début d'année, j'ai pu contacter un avocat. puisque bon, le témoignage que j'avais donc effectué au niveau de la presse avait donné un article dans Politis en avril 2008. Ensuite, j'ai pu avoir en décembre 2008 un article, cette fois-ci clairement nominatif en ce qui concerne la mairie de Colmar, dans un magazine régional qui s'appelle Tonic Magazine. Et j'ai été contacté, puisque je laissais mon adresse email, par différentes personnes intéressées par donc cette situation. Et j'ai pu avoir un contact avec un avocat dernièrement qui accepte de suivre le dossier, parce que mon but était d'intervenir auprès de la CNIL pour comprendre pourquoi depuis plus de carrément 3 ans maintenant, je vais dire, bon, on n'est pas loin des 3 ans, ne m'a pas suivi et n'a pas donné suite à ce dossier. Alors il se trouve que dernièrement je viens d'avoir une réponse de l'avocate comme quoi elle avait réussi à obtenir le dossier pénal de cette situation. Parce qu'il faut savoir si je peux donner une chronologie. J'ai averti la CNIL le 21 juin 2006 par courrier, donc sur cette problématique, en leur demandant conseil et leur avis, et même s'ils pouvaient éventuellement intervenir. Et à partir de cette date-là, j'ai eu différents échanges avec eux, qui étaient plutôt un dialogue de sourds, puisque la seule réponse que j'ai eue, c'est un mail de leur part pour me demander quelques petites précisions. Et c'est tout, en l'espace de près de 3 ans maintenant. Alors, je vais voir avec ce dossier pénal ce qui s'est passé, parce que ensuite, ne voyant rien venir au niveau de la CNIL, je me suis tourné vers le procureur de la République, donc de Colmar, par un courrier fin novembre 2006. J'ai été convoqué à la police en janvier 2007, cette fois-ci. Je n'ai pas porté plainte, mais j'ai dénoncé l'infraction, puisque j'étais pas moi-même directement victime de ces pratiques. Et je n'ai eu une réponse officielle, et alors que effectivement j'aurais dû l'avoir sans la demander, en juin 2008, comme quoi l'affaire était close, et que des suites n'étaient pas données, en mars 2008. Et là, voilà, avec le dossier pénal, je vais savoir ce qui s'est passé entre-temps, et ce que le procureur a fait, et les services de police, et j'aurai un peu plus de détails. Mais là, pour l'instant, tout ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé seul dans cette situation, et comme vous le disiez à la fin de ce que j'ai pu entendre, ni la CNIL, donc, en premier lieu, ni l'Association nationale des assistants sociaux, l'ANAS, n'ont réagi et ne m'ont suivi. Voilà, donc je posais la question de ces pratiques dans un premier temps, et puis ensuite j'ai dénoncé ce système de fichage intrusif sur la vie privée des personnes. Et en tant que travailleur social, on me demandait de rompre la relation de confiance avec la personne que je recevais dans le cadre de son parcours, en notant donc des éléments sur elle. Alors comme je le disais dans le témoignage de RTO qui est paru le 27 janvier, il y a des fiches qui sont neutres, il y a juste un report chronologique de leur parcours, et il y en a d'autres où la personne qui reçoit, donc le travailleur social, note les éléments que vous venez de donner, qui sont, moi je dis, il y a des centaines de fiches, j'avais pu en relever 47 réflexions de ce type-là, qui portent vraiment atteinte donc à la vie privée des gens et à leur intégrité. Voilà.
On imagine que c'est un parcours qui doit être fatigant, lassant, peut-être aussi usant. Est-ce que
absolument.
Vous avez trouvé du soutien auprès d'autres travailleurs, d'autres travailleurs sociaux et même allocataires du RMI ?
Non. Il y a des gens, effectivement, quand j'ai donné mon témoignage sur le plan de la presse, qui m'ont effectivement soutenu par les contacts, mails, téléphones que j'ai pu avoir, et qui effectivement m'ont laissé entendre que ces pratiques, on peut les trouver sur le plan national. Mais en dehors de ça, je n'ai pas rencontré de soutien particulier, hormis avec l'avocate, parce que j'attendais des réactions quand même de la CNIL ou de la justice par rapport donc à les interventions médiatiques. Et il se trouve que la CNIL, alors la CNIL a réagi dernièrement suite au courrier que l'avocat leur a envoyé pour avoir un petit peu des précisions là ces derniers temps. Et donc ils ont effectivement répondu. Et il y a un courrier de leur part qui mentionne que effectivement vous avez donc rendu public ce témoignage et en particulier donc sur Internet. Et ça laisse entendre, hein, semble-t-il, que ben ils réagissent pour ça, quoi. Donc ils sont apparemment bien embêtés qu'il y a une situation ou un témoignage de ce type qui circule, pouvant laisser penser qu'ils n'ont pas été sérieux et professionnels dans la situation que je leur exposais.
D'accord.
Et c'est une grande interrogation pour moi, et il faudra qu'ils en répondent, et c'est ce que j'attends avec l'avocate. Ce que je souhaiterais préciser, c'est que ce problème de fiche, je ne sais pas s'il existe encore, pour la bonne raison que les personnes que j'avais comme collègues à l'intérieur donc de l'établissement, de la collectivité, je n'ai plus de contact avec eux, puisque ils ne m'ont pas... la peur de la hiérarchie, la peur de représailles, a fait en sorte que je n'ai plus de contact.
D'accord. Et est-ce que vous savez, par exemple, avec certitude, où peuvent aller ces informations qui étaient contenues dans les fiches
Ces informations sont soi-disant des outils de travail. Hein, on peut les considérer comme ça. L'écrit chez un travailleur social, c'est un outil de travail. Mmh. Il ne peut pas s'en passer. Et on ne peut pas enregistrer les conversations, donc on prend des notes. Et on reçoit tellement de personnes qu'on est obligé de prendre des notes. Ces notes, elles nous appartiennent. Elles sont couvertes par le secret professionnel, qui est une protection pour l'usager, hein, et non pas pour le travailleur social ou pour la collectivité ou l'association qui l'emploie, et elles doivent rester tout à fait personnelles. Et les notes qui sont prises ne peuvent sortir de leur contexte, c'est-à-dire la vie privée de la personne et celui de l'entretien, que sous réserve d'une acceptation de la part donc de l'usager et à bon escient. Hein, parce qu'on peut toujours, on a besoin d'informations pour échanger avec d'autres partenaires ou d'autres collègues sur des situations. Faut pas se leurrer, on garde pas non plus fermé donc les données, puisque il y a un échange collectif qui peut s'opérer, une personne étant suivie par plusieurs dispositifs. Souvent. Le problème, c'est l'information de la personne, de l'usager, à savoir, ben voilà, monsieur, j'ai pris des notes sur vous, voilà ce qui va se passer, qu'est-ce que vous m'autorisez à dire, qu'est-ce que vous m'autorisez pas à dire. Enfin voilà, le béaba. Eh bien, malheureusement, ce n'était pas le cas dans ce type de figure. Alors, au niveau de ce service de la mairie de Colmar, le secteur géographique est découpé en 3 parties et il y a un travailleur social référent par secteur géographique. Donc, certaines remarques pouvaient être l'œuvre d'un travailleur social ou de deux, ou de temps en temps, il y en a un qui, comme ça, qui faisait une note, puis d'autres fois, il ne le faisait pas. Mais quoi qu'il en soit, ces fiches, donc à la fois qui sont traités informatiquement, c'est pas un logiciel spécifique, hein, et qui sont archivés donc dans des classeurs et non pas dans le dossier de la personne, n'étaient pas mis à disposition de l'usager, qui pouvait à ce moment-là faire valoir son droit de regard et même de refus.
D'accord,
voilà, c'est ça que j'ai surtout dénoncé, parce que c'est une atteinte à la vie privée et une atteinte au secret professionnel.
D'accord, parce qu'il y a peut-être une question qui peut intéresser certains auditeurs bénéficiaires du RMI.
Oui.
En tant que RMIste, est-ce que c'est possible de prendre connaissance des informations qui sont récoltées par les référents RMI?
Absolument, mais je veux dire non seulement en tant qu'RMIste, mais en tant qu'usager d'un service public ou d'un service social en particulier, puisque cette situation m'a amené à réfléchir sur ma pratique en tant que travailleur social dans le travail social en général. Mais là, je le circonscris donc à cette collectivité particulière. Mais cette difficulté rencontrée au niveau de ce service de la mairie, hein, c'est pas la mairie de Colmar en elle-même, hein, c'est un service spécifique, précis, donc je mets pas en cause la mairie de Colmar et ni la collectivité territoriale dans son ensemble, je mets en cause une pratique par des personnes à un certain niveau de professionnalisation. Simplement, ça m'a engagé dans une autre réflexion, celle du traitement des dossiers des RMistes, hein, s'il y en a à l'antenne, ils vont pouvoir se reconnaître au niveau des CLI, des commissions commissions locales d'insertion.
Ben, qui sont dans les conseils généraux.
Ouais. Voilà, par lesquelles donc tous les dossiers transitent. Ouais. Donc j'ai fait une étude là-dessus qui n'est pas encore parue sur RTO et il faut que je la mette en place, mais c'est l'analyse de ces pratiques, enfin du moins dans cette région. Et la problématique est la suivante. Le RMiste, mais comme tout usager lambda de services sociaux, n'est pas représenté. Donc j'en appelle à des collectifs, j'en appelle que ce soit même par rapport à la CEDIC ou la NPE pour l'emploi maintenant, il n'y a aucune représentation des usagers qui sont les premiers concernés à la table des, on va dire, des négociations ou des analyses des dossiers. Et ça m'amène aussi à une autre lutte que j'aimerais donc rendre sensible, c'est le scandale des suspensions et des radiations. Et là, c'est pas Pôle emploi. On suspend des personnes au RMI, on radie des gens qui sont au RMI, hein, pour des motifs quelconques, hein, l'écrit trouve toujours de bonnes raisons. Simplement, je trouve ça scandaleux dans la mesure où il y a très peu de fraudeurs. Très très peu de fraudeurs et la plupart des gens galèrent, cherchent du boulot, essayent de s'en sortir ou ont même d'autres motivations que le boulot lui-même puisque le i d'insertion de RMI n'est pas nécessairement l'emploi, hein, ça peut être tout à fait autre chose, hein, oui. Le logement, la famille, la santé, voilà. Mais il y a un espace important qui est consacré malheureusement dans l'accompagnement social de ces personnes au contrôle. Et j'appelle plus ça un accompagnement social, j'appelle ça du contrôle social.
Hein. Ouais, du fichage, voilà. Et du suivi administratif.
Hein, voilà. Plus. Alors, bien sûr, ces pratiques sont scandaleuses, puisqu'on demande à un travailleur social diplômé soumis au secret professionnel, donc en plus légalement, hein, de par la loi, hein, dans le code de la famille et puis dans le code pénal, d'obéir davantage à sa hiérarchie et à la collectivité que à sa déontologie et son éthique et à la loi, en fait. Hein.
Donc, d'accord. Voilà. Merci.
J'en saurai plus prochainement, si ça peut vous intéresser, sur le dossier pénal. Je vais savoir quel a été le parcours de ma plainte. Et ça m'intéresse beaucoup. Et là, je vais le consulter prochainement.
D'accord, on suivra ça. Merci Philippe pour votre témoignage. C'est important
d'avoir
dit.
Merci à vous de vous y être intéressé. Hein.
D'accord. Merci et à bientôt.
Et au cas où, si vous l'aviez prévu, je ne sais pas, vous pouvez tout à fait laisser mon mail s'il y a des personnes qui nous ont écoutés, qui ont besoin davantage de précision. Là, en quelques minutes, on a brossé rapidement le portrait. Mais voilà, c'est possible de me joindre au cas où. Hein.
Merci.
Merci à vous. Hein.
De rien.
Au revoir.
Au revoir.
Alors...
Yeah.
Oui, bonjour, il est 13h, vous êtes toujours sur Radio Audio, l'émission du numéro 0, c'est toujours l'heure du chaos. Et donc on déborde comme d'habitude, on va finir avec les annonces en tout genre, etc. Alors on va commencer par donner la parole à Yves pour qu'il puisse nous annoncer. Ben, voilà.
Alors essentiellement, parce que je crois que ce qui est important malgré tout par rapport à ce fichier, c'est d'essayer d'y mettre fin. Et entre autres, donc, il y a un site internet de résistance pédagogique Loire sur lequel il y a tout un tas d'informations pour les enseignants, pour les directeurs d'école et aussi pour les parents d'élèves pour pouvoir justement s'organiser et résister. Donc ça, c'est à noter. Et je crois que la solution est là, c'est résister ensemble et s'alerter, demander où on est pour les parents d'élèves, où on est le fichage de son enfant. Et la dernière chose, la possibilité de porter plainte avec là toute une démarche qui est vraiment prête et organisée sur laquelle on pourra donner toutes les informations nécessaires. Et donc rendez-vous sur le site Résistance Pédagogique Loire.
Voilà, alors maintenant on passe à tout à fait autre chose. À Lyon, très prochainement, donc samedi, SOS Tout Petit est toujours vivant, il faut l'achever lui aussi. On rappelle que SOS Tout Petit, c'est une organisation fasciste, en toute objectivité, hein, c'est une organisation fasciste et catholique intégriste qui a pour but de supprimer tout le droit à avortement. Et ils se réunissent régulièrement à Lyon pour prier, on ne sait pas qui. Et donc voilà. Et un rassemblement anti-VG, donc le jour de leur prière, est donc le samedi 18 avril à Lyon pour le droit à l'avortement. Et voilà, je ne sais pas l'heure qu'il est, mais enfin, je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas indiquer. Alors, bon. Si, c'est à 15h, voilà, devant l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu. Ensuite, non, pas à Saint-Jean-de-Dieu.
À l'Hôtel Dieu.
À l'Hôtel Dieu, voilà, sur la presqu'île.
Alors, appel à tous les Stéphanois et les Stéphanoises. Donc, en fait, il y a une manifestation le jeudi 23 avril. Et c'est une manifestation qui fait un peu suite au 26 janvier, au 29 janvier, etc. C'est un peu l'objectif de converger des luttes. Et ça se passera... Je suis hyper rapide, hein, je suis désolé dans la présentation. C'est le départ à 18h devant la fac Tréfilerie, dans la Grande Rue. Voilà. Auparavant, il y aura une réunion publique intitulée « La crise, c'est eux et la solution, c'est nous ». Et ça se passera la veille, donc le mercredi 22 avril à 18h30 à la Bourse du Travail. Pareil, cette réunion publique a pour objet aussi la convergence des luttes. On peut peut-être rappeler quand même que les personnels de l'université Jean Monnet sont en grève depuis le 26 janvier et que les étudiants et étudiantes bloquent l'université depuis le 24 février. Voilà.
Yo, et le jeudi 23 avril, toujours, petite annonce, pas spécialement militante, mais en même temps qui peut le devenir assez vite, puisque à Saint-Étienne, deuxième réunion, sécurité et liberté. Vous savez, ces réunions, je vous en avais parlé là, la dernière fois, où il y a le préfet, commissaire de police, et pas mal de gens, des politiques, mais pas que, aussi des gens, par exemple, représentants de la sécurité au niveau de la STAS, des gens, des bailleurs sociaux, etc., etc., dont l'idée, en gros, c'est de discuter tous ensemble de sécurité, de comment on pourrait collaborer tous ensemble, main dans la main. Voilà, moi j'avais été à la première, c'était relativement gerbant, je vous conseille d'y aller, et pourquoi pas y aller à plein.
Après la manif, par exemple.
Et deuxième petite annonce, le mercredi 29, au café Le Remue-Ménage, il y aura une rencontre dans la soirée avec les bénévoles de l'émission Papillon, qui une émission anticarcérale qui se passe les dimanches, une fois par mois, sur Radio Dio. Voilà, vous êtes royalement invités à aller les rencontrer au Remue-Ménage le mercredi 29. Voilà, on se quitte. Un grand merci à Yves pour ta présence.
De rien, merci.
Grand bravo à tous pour ces belles interviews.
Et par rapport à ça, justement, Philippe Mélinan, qu'on a entendu tout à l'heure de Colmar, je souhaitais juste vous dire que si vous souhaitez prendre son contact, éventuellement, envoyez-nous un petit message en nous indiquant ces précisions à notre boîte mail de l'émission numéro 0, qui est émission radio, sans accent, tout attaché,
fastmail.net. Et voilà, on pourra après transmettre.
Voilà, du coup, on se retrouve dans 2 semaines. Et d'ici là, prenez soin de vous et faites pas trop les cons. Ou plutôt, faites les cons, mais faites attention. Ciao.
Bon courage et bonne chance.
Bisous, bisous.